BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, ça se confirme, s'il en était encore besoin, quoi qu'il en coûte, c'est fini. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ce matin, Bruno Le Maire disait qu'il faudra trouver 12 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Et Thomas Cazenave a dit tout à l'heure que ça sera 20, au moins 20 en plus. On va voir ça dans un instant. Non, c'est pas la même. Et puis, on va en parler évidemment avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
Et oui, alors avec nos experts, nous allons aussi parler de nos amis britanniques qui, eux, de leur côté, viennent d'annoncer des baisses d'impôts massives. Alors évidemment, c'est pour essayer de sauver les meubles à quelques mois des élections. Et puis, on parlera aussi de ces nouvelles annonces aujourd'hui en Europe en matière de défense.
Ça fait beaucoup de choses. Qui sera avec nous pour parler de tout ça, plus d'autres choses. Jean-Marc Sylvestre, Atlantico, sera là dans un quart d'heure. Jean-Marc Sylvestre, Bruno Coquet pour le FCE, l'économiste atterré Benjamin Coria. Ça nous promet...
un débat musclé.
C'est le moins qu'on puisse dire là aussi. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
Good evening business, le journal.
Donc oui, effectivement, c'est un euphémisme de dire que le quoi qu'il en coûte est terminé. Bonsoir Thomas Asportas. Donc on se résume ce matin, c'est Bruno Le Maire qui dit dans la presse qu'il faudra trouver 12 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Tout à l'heure à l'Assemblée, c'est Thomas Cazenave qui l'a dit, ça sera un peu plus et pas qu'un peu justement, écoutez.
Compte tenu des résultats 2023, de la révision de nos prévisions de croissance en 2024, je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décret d'annulation soient pérennes, et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025.
Voilà où nous en sommes. Thomas, ça fait 15 jours qu'on enchaîne d'un seul coup les annonces de ce type. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup en France ?
Il se passe, Guillaume, qu'il n'y a plus de croissance dans le pays depuis l'été dernier et que ça détraque nos finances publiques. C'est aussi simple que ça. 0% de croissance au troisième trimestre, 0% de croissance au quatrième trimestre. L'acquis de croissance pour 2024 est de 0,1%. Donc vous voyez bien que ça fait 9 mois qu'on est à l'arrêt. Et ça veut dire évidemment moins de rentrées fiscales pour l'État que prévu. 7,7 milliards d'euros de recettes fiscales en moins en 2023 par rapport aux objectifs. 4,4 milliards d'impôts sur les sociétés en moins, 1,4 milliard de TVA, 1,4 milliard d'impôts sur le revenu. Ça, c'est pour 2023. Et pendant cette audition cet après-midi à l'Assemblée, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave ont dit que c'était la même chose depuis le début 2024. Les rentrées fiscales depuis le début de l'année sont inférieures aux prévisions. Le résultat, eh ben, c'est que les comptes dérapent. Les ministres disent que le déficit en 2023 sera, je les cite, nettement supérieur à l'objectif de 4,9%. Mmh. On connaîtra le chiffre exact le 26 mars quand l'INSEE présentera les comptes publics de la nation pour 2023. Mais les économistes spécialistes des questions budgétaires nous disent qu'il faut s'attendre en gros à un déficit pour l'an dernier entre 5 et 5,5%. Mmh. Donc oui, il y a le feu dans nos comptes publics. Pour Bercy, il y a urgence à éteindre l'incendie à grands coups de plan d'économie. Les 10 milliards annoncés il y a 15 jours pour boucler le budget de l'an dernier. Oui. Les 20 milliards annoncés cet après-midi pour boucler le budget de l'an prochain. Ça nous fait 30 milliards d'euros d'économies annoncées en 15 jours. 30 milliards d'euros d'économies annoncées en 15 jours. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et c'est très clairement dans la dépense sociale qu'il va y avoir les plus gros tours de vis à venir. Hein. La santé, les retraites, c'est la moitié de la dépense publique en France. Et Thomas Cazenave a par exemple suggéré il y a quelques jours de désindexer les retraites par rapport à l'inflation. C'est une mesure qu'on fait cette année qui coûte 14 milliards d'euros.
Une mesure très impopulaire, effectivement. Merci beaucoup Thomas. Bruno Le Maire qui avait donc annoncé ce matin 12 milliards d'euros d'économies dans la presse, qui avait dit aussi qu'il voulait diviser par deux, vaste objectif, je cite, le code du commerce d'ici 2027, toujours dans un souci bien sûr de simplification administrative. Il promet notamment que les fameux formulaires CERFA seront définitivement supprimés d'ici 2030. On en parlera avec nos experts tout à l'heure, bien évidemment. 19h05, je vous le disais, chez nos amis britanniques, c'est une autre ambiance. Là-bas, l'homologue de Bruno Le Maire a annoncé tout à l'heure des baisses d'impôts à quelques mois des élections législatives qui, c'est vrai, se présentent très mal pour les conservateurs. Écoutez... Jeremy Hunt, tout à l'heure à la Chambre des communes.
Because of the progress we've made, Grâce aux progrès que nous avons réalisés, parce que nous mettons en œuvre les priorités économiques du Premier ministre, nous pouvons maintenant aider les familles, non seulement par un soutien temporaire au coût de la vie, mais aussi par des réductions permanentes de la fiscalité. Nous faisons cela pour apporter davantage d'aide en ces temps incertains, mais aussi parce que les conservateurs savent que les baisses d'impôts mènent à une croissance plus forte.
But also because conservatives know lower taxes mean higher growth.
Voilà, Jeremy Hunt tout à l'heure à la Chambre des communes à Londres. Grande question, ça aussi, qui va agiter les marchés. À quand une baisse des taux du côté de la réserve fédérale américaine? Les signaux sont au vert, mais le patron de la Fed, Jérôme Powell, reste prudent. Il a été prudent tout à l'heure devant le Congrès. Écoutez, le patron de la Fed.
L'inflation globale a désormais baissé de plus de 3 points pour s'établir à 2,4%. Nous voulons avoir un peu plus de données pour avoir plus de confiance et ainsi pouvoir commencer à réduire les taux directeurs. C'est une étape très importante. Nous pensons, en raison de la vigueur de l'économie et du marché du travail et des progrès que nous avons réalisés, que nous pouvons désormais aborder cela avec prudence et réflexion. Lorsque nous aurons atteint cette confiance, et nous espérons y parvenir cette année, nous pourrons alors commencer à réduire les restrictions imposées à notre politique.
Jérôme Powell, le patron de la Fed, tout à l'heure à Washington, dans l'actualité des entreprises. Un mot du dossier casino, parce qu'on a appris tout à l'heure que le parquet de Paris ne ferait pas appel finalement du jugement du tribunal de commerce qui avait validé, vous savez, il y a quelques jours, le plan de sauvegarde du groupe, qui avait donc donné les clés d'une certaine façon à Daniel Kretinsky. Le comité social d'entreprise espérait qu'il ferait appel pour suspendre ce processus. Ça ne sera pas le cas et donc la nouvelle équipe managériale devrait prendre les manettes le 27 mars. Donc c'est dans 3 semaines. Et puis, on vient d'avoir les chiffres annuels de Téléperformance, géant mondial des centres d'appel. Chiffre d'affaires en dessous des attentes, un peu plus de 8,3 milliards. Téléperformance souffre grandement de la concurrence de l'intelligence artificielle. Il a même passé une semaine très éprouvante la semaine dernière. Nathan Cocampo.
C'est l'exemple type d'un ancien monde face à la nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Le leader mondial des centres d'appel constate depuis plusieurs mois que ses tâches sont désormais facilement faisables par l'IA. La semaine dernière, la fintech suédoise Klarna a justement rapporté les prouesses d'un outil, d'un assistant vocal qu'elle développe, une IA générative qui a permis en un mois d'effectuer plus de 2 millions de conversations, soit le travail de 700 personnes à temps plein. De la quantité sans perdre en qualité, selon la fintech, le taux de satisfaction est identique, voire supérieur à celui des agents humains. Des prouesses qui ont donc fait dégringoler le titre de Téléperformance coté au CAC 40 de plus de 20% le jour de cette annonce. Pour tenter de rassurer, le champion français a rappelé sa position face à l'IA qu'il voit d'un bon œil et dont il assure qu'il pourra en bénéficier. IA qu'il déploie déjà largement dans ses solutions pour gérer des processus simples. Le groupe qui a lancé un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros en août n'exclut pas d'autres rachats si son cours continuait de chuter.
Voilà, Téléperformance qui souffre de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business, 19h08. On va sur les marchés, je vous rappelle la clôture donc ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui gagne, oulala, 0,28%, 7954 points pour l'indice parisien. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Et à Wall Street pendant ce temps, mon cher Étienne.
Du vert également, avec une hausse qui est un peu plus franche qu'à Paris, plus 0,8% pour l'indice Nasdaq, plus 1% même pour l'indice S&P 500, avec Wall Street là qui est en train de digérer les propos de Jerome Powell que l'on vient d'entendre, hein. Donc pour l'instant il reste droit dans ses bottes, il ne donne pas de détails sur les baisses de taux, mais il n'a pas fait le pas de côté non plus, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas grand-chose, mais en même temps il ne sort pas trop de ce qu'il a dit, donc le marché
comme métier quand même,
voilà, oui. Hein, c'est des banquiers centraux, donc le Wall Street est pour l'instant pas étonné, mais pas déçu non plus, donc ça poursuit sa hausse à Wall Street. Du côté des valeurs, alors vous avez le secteur de la distribution qui est en grande difficulté, notamment Nordstrom, vous savez, qui est spécialiste de l'habillement, moins 10%, hein, avec notamment toute la concurrence du e-commerce chinois. Et puis alors c'est encore plus compliqué pour Foot Locker qui perd 30% là à Wall Street, vous savez, spécialisé dans notamment l'équipement sportif, hein, avec un plan 2026 qui est reporté à 2028, pas de dividendes dans l'immédiat, gros problème avec le e-commerce. Et puis voilà, hein, on le voit encore avec Naf aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour le physique, hein, donc par rapport à cela vous avez des acteurs qui sont obligés de faire avec le e-commerce et avec les prix bas des Chinois, donc c'est très compliqué pour ces deux acteurs américains. Néanmoins, ça n'empêche pas Wall Street de progresser aujourd'hui. aujourd'hui avec trois indices américains qui sont à nouveau proches de leur record.
Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Puis demain, vous savez qu'on parlera largement Banque Centrale Européenne, hein, réunion de la Banque Centrale à Francfort. On sera sur le coup, bien sûr, à BFM Business, édition spéciale à partir de 14h avec Stéphane Pedrazzi ici aux commandes et puis Aude Kersulec qui sera sur place à Francfort. On écoutera, bien sûr, et on débriefera la conférence de presse de Christine Lagarde. 19h10, nous revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Beaucoup de choses ce soir. La douloureuse pour l'an prochain, au moins 20 milliards d'euros d'économies à trouver. Les annonces de Bruno Le Maire sur le code du commerce. Et puis, entre autres, beaucoup de choses. Nos amis britanniques qui, eux, baissent les impôts, peut-être pour sauver les meubles à quelques mois des législatives. Tout ça, plus d'autres choses jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
19h15 sur BFM Business, les experts du soir vous parlent de politique d'austérité qui n'en est pas une. Hein. D'après Bruno Le Maire, nous sommes avec Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir. Et Bruno Coquet, bienvenue, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE.
Bonsoir.
Alors au cas où, on l'en doutait encore Guillaume, cette fois-ci le quoi qu'il en coûte, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est terminé. En tout cas c'est ce que Bruno Le Maire disait ce matin dans la presse. L'an prochain, nous allons devoir économiser 12 milliards d'euros, mais tout à l'heure à l'Assemblée, c'est Thomas Cazenave, le ministre délégué, qui a dit que ça serait en fait beaucoup plus.
Alors lui a dit 20, enfin il a dit au moins 20 milliards d'euros qu'il faudra trouver donc à répartir entre l'État et la Sécurité sociale. Écoutez Bruno Le Maire qui dans la foulée l'a dit parce que ça commençait à monter à l'Assemblée nationale, c'est pas de l'austérité, donc ne commencez pas avec ça. Écoutez Bruno Le Maire.
Jamais la France n'a connu l'austérité. Jamais, jamais, jamais. Depuis 50 ans. Arrêtons les fantasmes sur l'austérité. Il n'y a pas eu d'austérité hier, il n'y a pas d'austérité aujourd'hui, et il n'y en aura pas demain. Tout simplement parce que l'austérité n'est évidemment pas la bonne solution face à la situation économique où nous sommes. Et que de l'austérité ne ferait que abîmer la croissance française. Mais de l'austérité, il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura pas. Les dépenses publiques, c'était 760 milliards d'euros en 2000. C'est près de 1600 en 2023. C'est le double. La dépense publique a doublé en 23 ans. Alors si l'austérité, c'est le doublement de la dépense publique, ça fait cher l'austérité.
Enfin, on sent quand même qu'il y a un incendie à éteindre urgemment parce qu'on s'est rendu compte que le déficit finalement de 2023 était beaucoup plus grand que ce qu'on avait espéré. Et en fait, en 15 jours, on nous annonce 30 milliards d'euros d'économies. Alors, mais ce n'est pas une politique d'austérité, ça, Jean-Marc Sylvestre ?
Non, je ne le crois pas, puisque le ministre a dit que... Non, je pense tout simplement que c'est l'amorçage d'un début de commencement d'une économie libérale.
Ah, donc vous êtes en train de dire que c'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle.
L'amorçage,
c'est une très très bonne nouvelle qu'on dise enfin la vérité sur les comptes de la France et qu'on ne raconte plus d'histoire et qu'on commence à dire que effectivement, si la dette était soutenable parce que on était en période de crise et qu'il fallait subvenir et éviter les risques de cette crise, aujourd'hui la dette va devenir un peu plus difficile à soutenir et donc il va falloir réduire ce qui est réductible, c'est-à-dire les dépenses publiques et sociales.
Votre amorçage, voilà. Il a commencé avec 10 milliards de rabots.
On a commencé avec 10 milliards de rabots,
aveugle, sans
12 milliards en 23 et 25 bon. Milliards vraisemblablement en 25.
Benjamin Coria, pour vous, c'est de l'austérité, aller chercher 30 milliards là.
En écoutant notre ministre, je me disais, ah, comme joliment ces choses-là sont dites. Bon. Parce qu'il faut qu'ils repartent 20 ans en arrière pour pouvoir faire des comparaisons, alors qu'il s'agit en fait de raboter 10 milliards, puis 12 milliards, peut-être 20 milliards. Alors, il appelle ça comme il veut. Mais je crois que dans un certain nombre de ministères et notamment dans un certain nombre de budgets sociaux et écologiques, on va s'apercevoir que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, pour ensuite évidemment laisser la parole à d'autres, c'est en préparant cette émission, je suis tombé sur une citation absolument magnifique du chancelier de l'Échiquier. L'Angleterre,
oui.
Vous l'avez vu, hein.
Ouais, écoutez,
dit, allez-y, tous les conservateurs savent que baisser les impôts se traduise par une augmentation de la croissance. Eh bien, nous y sommes, hein, nous y sommes. On a, comment dire,
alors, attendez,
diminué
parce que
les impôts de 70 milliards en France, depuis Macron et...
50.
Ah ben moi j'ai vu 70, moi. Bon, ça dépend comment c'est calculé, sans doute. En tout cas,
oui, mais justement, Benjamin, pardon, mais ces baisses d'impôts, elles ne se sont pas traduites en augmentation de croissance. Au contraire, on est à 0%.
C'est exactement ça mon point. Et que ça ne s'est absolument pas traduit par ce qui était attendu, au point qu'on en revient aux bonnes vieilles méthodes. Alors, appelons ça du rabot, de je ne sais pas quoi. Bon, bref, on est quand même face à un échec de la politique économique suivie qui commence à être sévère.
Ça sera peut-être pas du rabot, parce que vous avez quand même entendu Bruno Le Maire ce matin qui a reparlé de l'assurance chômage.
Oui, hein, absolument.
Donc,
absolument.
Bruno, voilà, est-ce que absolument. C'est là-dessus qu'on va se focaliser? Il semblerait que oui, à entendre Bruno Le Maire, finalement. On va y retourner, quoi.
C'est ça que ça veut dire. Sur l'assurance chômage, ça me semble assez clair qu'on va y retourner. Hein. Ils cherchent de l'argent, donc là, il y en a, puisque l'excédentaire, donc on va y aller. Enfin, moi, la première chose, c'est je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire les auditeurs, depuis qu'on se raconte que le budget était insincère, que le taux de croissance était excessif, que le 49.3, c'est bien sympathique, mais ça ne permet pas de discuter le budget. Oui. Et donc, du coup, on se retrouve avec des choses comme ça. Alors, donc, effectivement, il y a un trou sur 2023. 2024 n'est pas financé et on commence à parler de 2025. Voilà, après, le ministre de la dette nous engueule parce qu'il est ministre de la dette depuis 7 ans. La France est le pire performeur européen du point de vue de la dette. Il n'est plus dans l'Europe, maintenant le Royaume-Uni aussi.
Oui.
Mais le point, c'est que il y a un moment, la vérité des comptes, elle arrive. Et les 10 ou 20 milliards, ça ne suffira pas. On ne peut pas rentrer dans les clous.
Non, mais là, vous avez compris l'urgence du moment, c'est de faire des gouzi-gouzi, pardon, comme dire comme ça, aux agences de notation pour le printemps.
Et surtout
c'est
ça, à Bruxelles.
Ça ne va pas plus loin, Bruno, on est d'accord.
Non, il n'y a pas de stratégie déjà. C'est-à-dire, il nous dit la protection sociale coûte cher, alors qu'elle n'a jamais coûté aussi cher en contribution des gens, mais il ne nous parle pas de l'efficacité de la dépense publique.
Oui, absolument. On en revient toujours au même. On n'a aucun projet de société. Mais ceci dit, quand Guillaume dit que ça ne va pas plus loin que ça, mais je ne sais pas. Parce que quand on voit que les ministères les plus touchés, c'est le ministère de l'écologie en premier, évidemment, avec 2 milliards d'euros en moins. Le ministère de l'emploi qui perd 1,1 milliard. L'éducation, ça va forcément se voir.
Ah oui, mais ça va se voir. Le point, c'est que elles sont ciblées. Quand on regarde des programmes de dépenses publiques, on voit bien que du côté, si on les regarde proportionnellement, du côté de la culture, du côté de la recherche. Après, le point, c'est qu'il faut regarder la masse salariale de l'État, mais fondamentalement, il n'y a pas de stratégie. Donc, c'est des coups de, c'est pas des coups de rabot, mais c'est des coups de seringue ici ou là. En tout cas, je ne suis pas aussi optimiste que Jean-Marc sur le choc libéral.
Justement, parole à l'optimiste.
Je pense que on en est qu'au début. Et je pense qu'il y a derrière ça autre chose de plus structurel et de plus important. On le saura sans doute en 2024 ou 2025.
Qu'est-ce que vous sentez?
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réduire durablement les dépenses publiques, qu'il faut réduire, dépenses publiques et sociales, qui représentent quand même 60% de 58% du PIB. Donc on est dans record du monde actuellement dans le domaine. Donc ça asphyxie complètement le système économique. Il y a pas d'oxygène, les entreprises. Bon, donc il va falloir aller plus loin, mais il ne pourra pas y aller en rabotant uniquement.
Non mais d'accord. Alors juste attendez.
Donc, il ira jusqu'à réduire vraisemblablement en termes de réforme le périmètre de l'État, parce qu'il faudra bien un jour.
Donc la réforme de l'État, on va finalement y arriver. Mais
au périmètre de l'État,
puisque vous
c'est quoi
parlez
plus concrètement. Ça veut dire des privatisations, ça veut dire des délégations, ça veut dire des suppressions d'activités.
On est à l'os, là.
Des délégations. On n'est pas à l'os.
Même la Française des Jeux,
on n'est pas à l'os aujourd'hui. Et deuxièmement, j'ajoute à cela que je pense que sur le plan personnel, Bruno Le Maire a un intérêt politique à faire ça.
Pour
2027. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace pour un candidat possible qui porterait des idées libérales.
Il y en a d'autres?
Non, il n'y en a pas.
Alors,
il y en a pas.
Édouard Philippe, Darmanin,
Édouard
Philippe,
David Lisnard.
C'est le seul
voilà.
Parce que Édouard Philippe n'est pas un libéral, on le voit bien. L'extrême droite n'est surtout pas libérale. Vous avez vu dans les
échos. Dans trois ans les élections.
Hein, l'extrême droite rouspète contre les 10 milliards de rabotage, elle ajoute un programme qui va coûter plus de 10 milliards.
Benjamin Coria.
Je reconnais à Jean-Marc d'avoir touché une vraie question de fond, qui est que on voit bien qu'il y a une dimension d'affichage politique et idéologique dans ces annonces, y compris dans la manière dont il les met en scène. Bien. Parce que pour ce qui est de la rationalité économique et du bien fondé, alors c'est tout à fait une autre histoire. Moi, je connais l'histoire. maintenant que je fais un certain nombre de plateaux, 58% de dépenses, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est que là, on additionne et les impôts et les prélèvements sociaux. Oui. Pour ce qui concerne les prélèvements sociaux, pratiquement les trois quarts sont immédiatement redistribués. Oui. Donc, ils ne sont pas prélevés. Ils sont juste réacheminés. Oui. Bon.
Bah si, parce qu'après, c'est réinjecté dans l'économie
part,
tout de suite.
Non, mais d'une part.
Mais non, non.
Bon, on va dire dans
et d'autre part, c'est un exemple, vous me pardonnerez, que moi j'aime bien donner, ça nous fait faire beaucoup d'économies. Ça nous fait faire beaucoup d'économies.
Alors, c'est-à-dire
avoir une sécurité sociale socialisée, comme celle que nous avons, nous permet d'avoir 11% du PIB de dépenses de santé contre 19% aux États-Unis, en soignant beaucoup mieux et beaucoup plus de gens. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter, arrêter.
Ça n'est pas n'importe quoi.
C'est-à-dire mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Additionner les impôts et les dépenses et les transferts sociaux qui sont remis dans le circuit, c'est n'importe quoi.
Ne te fâche pas. Il faut faire confiance aux assurés pour pouvoir flécher.
Mais
eux-mêmes.
Oui, comme aux États-Unis, ils se retrouvent ensuite dans des ghettos et dans la rue.
La logique assurantielle a autant d'intérêt. Regardez l'assurance automobile, elle est obligatoire, hein. Bon, elle fonctionne, elle n'est pas déficitaire, elle n'a pas besoin de l'État.
Parce que l'assurance santé et l'assurance automobile, c'est pareil. Enfin,
mais peut-être
que... c'est un peu différent. Mais alors attendez, puisque Jean-Marc parlait de records mondiaux, la France est aussi le pays qui a le niveau de pression fiscale le plus élevé au monde. Mais on est bien d'accord que justement, l'augmentation des impôts dans ce cadre-là, pour le moment, c'est une ligne rouge de la part du gouvernement.
Oui.
Bruno Coquet.
Je suis d'accord avec ce point. C'est une ligne rouge qui a été citée maintes fois. Pour autant, le taux de prélèvement obligatoire ne diminue pas.
Ouais.
Donc, au bout du compte...
Commence à tanguer sur les hausses d'impôts. Oui, enfin, on sentait que ça commence à monter en puissance.
Ah oui, mais de toute façon, on va lâcher.
Le
point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, on prélève de l'argent que l'on redistribue.
Mmh. Alors,
moi, je suis d'accord avec Jean-Marc sur le fait que les assurances, ce sont un excellent dispositif.
Bien sûr.
Et que faire passer les assurances du côté de la redistribution, c'est un problème. Hein. Mais si vous prélevez 40 et que vous redistribuez 40,
oui.
Ou que vous prélevez 10 et que vous redistribuez 10, c'est quoi la différence ? C'est que 40 plus 40, quand la personne qui fait ça est inefficace en prélèvement et inefficace en dépenses, eh ben c'est un gros problème. Si vous le prélevez 10 et que vous rendez 10 et que vous n'êtes pas efficace, ça ne se voit pas beaucoup. Le problème, c'est que comme on intervient beaucoup à la fois sur les recettes en disant on a des trucs incitatifs, etc., et donc on fait déjà de la redistribution et des incitations du côté des recettes. Puis du côté des dépenses, on fait pareil. Si les deux côtés sont inefficaces, on a plus de 100% du PIB inefficace. Et donc, du coup, le niveau a un sens, même s'il est redistribué complètement et instantanément.
Bien sûr, et ça, pour les agences de notation, c'est important.
Benjamin, est-ce que cette petite phrase aussi de Bruno Le Maire, qui n'est pas celle qu'on retient, et pourtant, il dit sur l'assurance chômage, il faut que l'État reprenne définitivement la main. Donc ça y est, là, il faut y aller, il faut se dire, voilà, on s'assoit sur le pari
d'un risque.
Depuis 7 ans,
ils ont la main.
Excusez-moi, ils ont de moins en moins la main. Ils ont moins l'honnêteté de dire, on reprend définitivement la main.
Les syndicats.
Non, mais attendez.
Ils négociaient avec le couteau, avec le revolver sur la tempe.
Mais bien sûr, parce que de toute façon, ça fait de très nombreuses années que les lettres de cadrage, hein, puisque c'est ainsi qu'elles sont désignées, envoyées aux partenaires sociaux, c'était il faut que vous fassiez tant et tant et tant d'économies,
oui.
Dans un délai de tant et tant et tant, et puis telle et telle catégorie doivent être... Là, ils reprennent définitivement la main. Moi, personnellement, je trouve que c'est une extrêmement mauvaise évolution. Extrêmement mauvaise. Exactement pour la raison que vous disiez, à savoir que, de la même manière que le fait que le budget ne soit plus débattu, qui passe par 49.3, se traduit par le fait que y a des bourdes énormes qui sont faites, qui pourraient être évitées s'il y avait eu débat, de la même manière... maintenant sur ce type de sujet, le fait que ça passe entre les mains de trois technocrates de je ne sais quel ministère caché sous je ne sais quel dossier est un désastre.
Parce que notamment c'est une négation du dialogue social.
Mais bien sûr.
D'une part, donc depuis 7 ans, depuis 2017, les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord sur l'assurance chômage. C'est 100% l'État. Et l'État qui au total là dans ces 7 années a dû, je vous fais un petit calcul de tête, a dû prendre plus de 60 milliards dans l'assurance chômage.
Oui.
Donc, du coup, c'est pas négligeable. Et l'argument aujourd'hui, c'est de dire que la durée d'indemnisation est trop longue. Il n'a aucun élément, aujourd'hui, pour montrer que c'est le cas. Et puis, par ailleurs, il dit que ça coûte cher, mais
En dépenses, mais le problème, c'est que en France, l'assurance chômage, elle est deux fois plus chère que dans le plus cher des autres pays, qui est l'Allemagne. Et donc, du coup, c'est les assurés. Les assurés payent cher. Pourquoi ? Parce qu'ils jugent que le risque, lorsqu'il survient, est important, qu'ils ont besoin d'être protégés. Et donc, du coup, ils en veulent pour leur
argent. Oui, alors juste d'accord, mais pardon, 30 secondes sur la durée. Vous êtes bien d'accord pour dire qu'on voit que ce sont dans les derniers mois des indemnisations perçues que l'on s'active pour retrouver un emploi.
Et ce sera toujours le cas. On connaît un article américain.
Oui, mais c'est pour ça que si on réduit la durée, on a plus de chances que les gens retournent à l'emploi rapidement.
Ils vont retrouver un emploi, le premier qui vient en quelque sorte, et qui est en dessous de leurs compétences. Donc des gens qualifiés vont prendre un emploi à la place de chômeurs non qualifiés, parce qu'ils vont prendre la place de quelqu'un d'autre, dans un emploi où ils vont, en gros, détruire leurs compétences. Quand par ailleurs, on explique qu'il faut former les gens pour accroître leur productivité et leur employabilité. Donc ça ne va pas du tout. Enfin, quel que soit l'angle,
en ce moment, ça ne va pas. Jean-Marc, 30 secondes, est-ce qu'on a du paritarisme ? Voilà, c'est terminé, l'État reprend la main.
C'est vrai que sur le paritarisme, moi je suis très sévère, parce que les partenaires sociaux se sont mis aux abonnés absents et ils ont donné les clés des systèmes à l'État, parce qu'ils ne voulaient pas assumer des décisions qui étaient compliquées et difficiles. Donc, voilà. Mais je reviens à ce que je disais au départ. Je trouve qu'on est dans une situation absolument paradoxale actuellement. C'est-à-dire qu'on a une France qui se droitise énormément, très vite, politiquement, qui se droitise sur tous les problèmes sécuritaires, d'immigration, de ce que tu veux, mais qui continue de s'attacher et de s'accrocher à un système économique et social qui était hérité de la gauche. Pas question d'introduire un tout petit peu de liberté dans le système économique.
Donc on est
Il y a un vide de programme, il y a un vide de propositions en matière libérale. Et c'est la première fois qu'on a sur la scène politique aujourd'hui, parce que ça a quand même été sanglant à l'Assemblée nationale cet après-midi à la commission économique, quelqu'un qui vient commencer à expliquer qu'on pourrait peut-être avoir un modèle plus libéral.
Comment vous avez fait l'amorce de début de commencement, c'est quoi l'expression début de...
Du début ?
Oui, l'amorce de début de changement.
L'amorce d'un début de changement libéral.
L'amorce d'un début de changement.
Bon, en tout cas, on a une purge d'austérité qui semble être en marche.
Ah voilà, en tout cas, 19h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité, donc ça se confirme. Hein. Il faudra non pas 12 milliards d'euros d'économies l'an prochain, mais 20 au moins, a dit Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics, parce qu'il l'a dit, nous n'arriverons pas à ramener nos déficits à 4,9% du PIB. À la fin de cette année, Bruno Le Maire, qui avait par ailleurs parlé ce matin de sa volonté, je cite, de diviser par deux, je cite, le code du commerce d'ici 2027, toujours dans un souci de simplification administrative. Il promet même que les fameux formulaires CERFA seront définitivement supprimés d'ici 2030. Et puis dans le dossier casino, on a appris tout à l'heure que le parquet de Paris finalement ne ferait pas appel du jugement du tribunal de commerce qui avait validé le plan de sauvegarde du groupe, qui avait donné les clés du camion entre autres à Daniel Kretinsky. Les syndicats espéraient qu'il le ferait justement pour suspendre ce processus, ça ne sera pas le cas et donc la nouvelle équipe devrait prendre les manettes le 27 mars, donc dans 3 semaines. 19h32, on revient dans un instant évidemment.
Hein. Ah oui, alors beaucoup de news à commenter, un code du commerce qui devait être divisé par deux, des baisses d'impôts en Grande-Bretagne et bien d'autres sujets, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, les experts vous parlent de ces annonces qui viennent de tomber en Grande-Bretagne. Nous sommes avec Benjamin Coria, Jean-Marc Sylvestre et Bruno Coquet. Donc on vous pose cette question, messieurs. Hein. Faut-il s'inspirer de ce que font nos amis britanniques qui, ils l'ont annoncé, vont baisser les impôts alors que la situation économique n'est pas non plus très favorable, même s'il y aura un peu plus de croissance que prévu.
Ils feront 0,8% de croissance cette année, soit un peu plus que prévu, 0,7%. Pas Byzance, mais effectivement, ils ont quand même annoncé des baisses d'impôts. On sent qu'on essaie de sauver les meubles, là, quelques mois des législatives. Écoutez, Jeremy Hunt, le chancelier de l'Échiquier à Londres cet après-midi.
Grâce aux progrès que nous avons réalisés, parce que nous mettons en œuvre les priorités économiques du Premier ministre, nous pouvons maintenant aider les familles, non seulement par un soutien temporaire au coût de la vie, mais aussi par des réductions permanentes de la fiscalité. Nous faisons cela pour apporter davantage d'aide en ces temps incertains, mais aussi parce que les conservateurs savent que les baisses d'impôts mènent à une croissance plus forte.
But also because conservatives know lower taxes mean higher growth.
Le inspiré, Benjamin, vous voyez, Jérémy Hunt.
Oui, oui. Non, mais je crois que là encore, on est à quelques semaines ou à quelques mois des élections. Et donc, les conservateurs, ils n'ont pas beaucoup de hochets à agiter, surtout après le passif qu'ils ont accumulé. Bon, donc, ils nous ressortent les baisses d'impôts, qui, de toute façon, compte tenu de la situation en Angleterre, qui est quand même plutôt très mauvaise, seront tout à fait marginales et anecdotiques. Donc, en fait, je pense que c'est un pur argument électoral. C'est pas avec ça qu'ils vont se sortir de la mouise dans laquelle ils sont. Ça, c'est
vous,
tout à fait
vous
clair.
Êtes d'accord avec ça, Jean-Marc? Parce que, en effet, alors c'est vrai que le parti, en l'occurrence, est à la traîne dans les sondages face à l'opposition. Mais est-ce que c'est pas aussi 14 ans d'échecs de politique économique et qui finalement sont un peu remis en question avec ce sursaut final?
Je ne sais pas du tout quelles en seront les conséquences. Ce que je sais, c'est que parmi ces échecs, il y a celui du Brexit.
Oui.
Même si les conservateurs ne sont pas responsables totalement, mais tout le pays.
Totalement, oui, ils sont tous responsables.
Ils sont tout le monde est responsable. Donc,
ils font quand même quasiment 2% de croissance l'an prochain.
Oui, c'est bien sûr. Stats, hein, et voyez, souvenez-vous ce que vous nous disaient les partisans du Brexit pour expliquer pourquoi ils militaient aussi fortement pour le Brexit.
Oui.
C'est qu'en en s'affranchissant des règles de Bruxelles, ils pouvaient devenir libres, libéraux au maximum, et créer à Londres le Singapour sur Tamise. C'était le Singapour sur Tamise.
Alors, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, en réalité.
Non, mais c'est à ça qu'il pense là, actuellement, maintenant.
Ouais.
Maintenant, c'est ce qu'il veut faire.
Oui, enfin, n'est-ce pas trop tard, en effet, à quelques mois des élections.
Il n'est pas trop tard, il a perdu une grande partie de la City, et il pense pouvoir la récupérer.
Non, mais il va perdre les élections, de toute façon, la question est réglée, là. Il amuse la galerie. Bon.
C'est perdu d'avance, Bruno Coquet?
Oh non.
Mais moi, je croyais pas d'impôts au Royaume-Uni, en fait.
Donc
on les baisse. Si. Moi, je me souviens de Liz Truss, c'est du jeu parce qu'elle annonçait des baisses d'impôts. Donc, immédiatement, j'ai regardé ce que faisait
Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas restée très longtemps. Mais...
Bah oui, à cause de ça.
Bah oui. Les marchés leur sont tombés dessus, les malheureux.
Et d'un point de vue macro, le Royaume-Uni ressemble à la France du point de vue dette. Ils ont monté la dette pendant le Covid et elle n'a pas baissé. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'annonçait le ministre des Finances anglais. Et en fait, il baisse aussi des dépenses. Et il baisse
des séances
d'assurance de maladie.
Sur le NHS, notamment, il y a des... C'est ça le pendant.
Oui, la santé. Oui, absolument. Donc, il se retrouve un peu dans la même situation que nous en France, avec des baisses sur les dépenses sociales.
Ah oui. Oui, alors qu'il n'y en avait pas non plus, je crois.
Ouais.
Donc, du coup, on a eu cette bizarrerie qu'effectivement, on était dans un modèle.
Non, mais quand on a un HS dans
un peu orthogonal au nôtre, et au bout du compte, on voit qu'on a quand même le même genre de problème. C'est bizarre.
Benjamin.
Non, c'était juste une remarque comme ça. Quand on a un système de santé qui se porte aussi bien que celui de l'Angleterre, les coupures de dépenses s'imposent. Ça va de soi.
Non, mais comme vous disiez, ils veulent maintenant faire autre chose de la Grande-Bretagne. Je sais qu'ils ont signé très très peu d'accords commerciaux. Ils espéraient Trump à la Maison-Blanche, ils espéraient en signer avec les États-Unis, ils ne l'ont pas fait. Ils en ont signé quelques-uns par-ci par-là, mais globalement,
ils sont pour le monde entier, pour signer des accords bilatéraux.
Oui.
L'idée, c'est Singapour, c'est, on en revient à ça. Mais c'était explicite au moment du Brexit. C'était le seul. Ils n'ont pas voulu avancer publiquement, mais c'était ça l'idée.
Bon. Donc l'idée pour vous, c'est que les travaillistes vont revenir au pouvoir dans quelques mois.
Ah oui, moi je ne vois pas comment, après la purge conservatrice. Je vois pas comment ils vont se reproduire. Je peux me tromper, mais on a quand même l'impression que pour eux c'est la fin, quoi. Là, c'est le chant du cygne.
Ah carrément.
Enfin, c'est pour la prochaine élection. Non. Ah ben l'histoire est longue. Parle de la prochaine élection. Non.
Les paris sont lancés.
Très bien. On voulait dire un mot de l'Europe de la défense parce qu'on a une succession d'annonces hier de la part de Thierry Breton, aujourd'hui de Bruxelles. Voilà la volonté de redynamiser les capacités de défense face à la menace russe, réinvestir l'outil industriel, une industrie de défense plus compétitive, s'élargir un petit peu ou s'éloigner des États-Unis dans une perspective de la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche. Comment est-ce que vous regardez tout ce qui a été annoncé depuis 24 heures? Est-ce que vous sentez un sursaut? Est-ce que vous dites le grand soir et pour demain matin? J'aime beaucoup cette expression en matière d'Europe de la défense.
Ce que je vois, c'est que la France est le seul pays à peu près équipé en matière de défense. C'est encore assez fragile, mais c'est le seul à pouvoir détenir la force nucléaire. C'est le seul à avoir une armée qui a été un peu éreintée en Afrique. Tous ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui en Europe, ils ne sont pas très bien placés pour le faire. Parce que, franchement, l'Allemagne n'a pas de défense, n'en a jamais voulu. Et elle en a profité d'ailleurs pour améliorer sa compétitivité intérieure en matière de production industrielle, et ça lui a fait beaucoup de bien. Et quant aux autres pays, ils vivent sous le parapluie qui est le nôtre. Donc il faudrait, avant de faire du Macron bashing sur le problème de la défense comme on est en train de le faire aujourd'hui en Europe, regarder exactement quelle est la nature des risques, quelle est la nature des dangers. Et c'est un peu ce que veut faire Thierry Breton. Thierry Breton se dit, après tout, l'Europe, elle a les moyens financiers. On a un paquet d'argent qui n'a pas été utilisé. On en parlait un peu avant, il doit être dans les 600 ou 700 milliards.
Oui, d'accord, mais enfin, le problème, c'est que même la capacité d'investissement individuel des pays, elle est aussi importante, mais le gros problème, c'est qu'on achète américain.
Oui, on achète, les Allemands achètent américain.
Non, mais pas que, la Pologne.
Mais cela dit, ils achètent
pas. La Pologne vient de signer 2 milliards de dollars de contrats avec les Américains pour des équipements aériens.
Effectivement, ce chiffre qu'on donnait hier, 80% des achats de matériel militaire en Europe se font auprès de sociétés qui ne sont pas européennes.
Parce que la défense de l'Europe est assurée par l'OTAN aujourd'hui, et notamment par les Américains qui sont pilotes.
Oui, enfin aussi parce qu'on a vécu dans les dividendes de la paix pendant des années, qu'on s'est complètement désinvesti sur le sujet, et il a fallu une guerre en Ukraine pour qu'on se réveille sur ce sujet-là.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui un accord européen sur l'idée que l'on peut être en risque de guerre. Il y a assez peu de pays, à part la France, qui essaient de faire cette pédagogie-là, mais les autres pays, les Allemands, ne sont pas convaincus.
Ah non, attendez, parce que la Suède et la Finlande, qui étaient pays neutres, comme on dit, puisqu'ils n'étaient pas pour cette Europe de la défense, finalement, ont revu leur statut et rentrent dans le jeu. Bruno Coquet. Il y a une prise de conscience, quand même, Bruno.
Bah oui, il y a un marché déjà, donc du coup, la logique veut que, comme on veut réindustrialiser, comme on a un besoin de se rééquiper dans plein de pays, on a un savoir-faire. Même des pays neutres comme la Suède, c'est un fournisseur d'armes historique. Hein, donc, sans parler de certains pays d'Europe centrale comme les Tchèques ou les Bulgares. Et donc, du coup, on voit bien que il y a tout pour faire. Ouais. Il suffit juste de se mettre d'accord. Et grâce à Donald Trump, on va peut-être arriver à se mettre d'accord.
C'est vrai.
Ce qui sort de Bruxelles pour le moment n'est pas fantastique, hein, on va dire comme ça. Ça fait, c'est un peu le message usual et puis la bonne conférence de presse. Mais fondamentalement, on n'a pas vu de choc.
Non, mais c'est vrai que les déclarations de Donald Trump, elles ont quand même remis sérieusement en question la capacité de garantir la sécurité de la part des États-Unis vis-à-vis de l'Europe.
Oui, mais Donald Trump, c'est vrai. À la Maison Blanche, on n'a pas l'impression que ça a provoqué un véritable sursaut du côté des Européens.
Oui, il n'était pas un état de guerre.
Non, mais c'est vrai que la position de Trump sur l'OTAN, etc., sert d'alerte à l'Europe. Mais moi, je pense quand même il y a trois problèmes, et c'est la raison pour laquelle je suis très sceptique sur la capacité, sur l'effectivité des annonces qui sont faites, sur le fait qu'elles puisse être suivi des faits. Il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que c'est la quantité d'argent disponible ou qu'on est prêt à dégager pour des dépenses de défense. On a suffisamment dit dans quelle nasse se trouvent les différents pays européens.
Vous parlez de nous, Français,
en matière... Non, au niveau européen.
Bah, les Allemands peuvent le faire, ils pourraient.
Oh, les Allemands peuvent le faire. Non, ils ne peuvent pas le faire.
Ils ne veulent pas.
Parce qu'ils ont une cour de Karlsruhe qui leur dit qu'ils ne peuvent pas.
Ils ne veulent pas le faire.
C'est les siens, les dépenses de défense.
Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est, en Europe, comment mettre tout ça ensemble, sachant que les vues et les intérêts sont assez différentes. Et qu'il y a... Enfin, on a bien vu quand même sur l'histoire des systèmes de protection antimissiles, les Allemands sont passés marché avec les Américains alors qu'il y avait un système français très avancé.
Il y a
ce deuxième problème-là. Et puis le troisième problème, c'est effectivement l'idée d'une défense commune européenne sans les États-Unis, c'est zéro. Ah, les pays du bloc de Volgograd ne veulent pas en entendre parler.
Il n'y a qu'un
seul défenseur possible en cas de guerre,
ce sont les
États-Unis.
Non mais attendez, c'est zéro, Benjamin, sauf que quand même, ce que vient d'annoncer l'Europe cette proposition de plan industriel, c'est tout de même une petite révolution au sein de l'Union européenne.
C'est pas la première fois. L'Europe nous avait annoncé le Green Deal. L'Europe nous avait annoncé. Vous aviez ce qu'il en reste ? Rien.
Mais il faut quand même des points de départ. Là, de toute façon, c'est bien que cette commission-là ne va rien faire.
Il va se faire des choses. Moi, je vous dis pas qu'il va rien se faire, mais je suis très sceptique sur le.
Non, mais la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine inquiète de plus en plus les acteurs européens.
Je pense que l'Allemagne ne peut pas continuer de camper sur la situation qui est la sienne, compte tenu de sa situation.
Bruno Coquet.
Moi, je pense de manière générale que industriellement, il faut qu'on se mette d'accord entre pays européens.
Mais oui.
La défense, avec la guerre en Ukraine, ouais. Et la menace, je ne sais pas comment le dire, américaine, de dire on arrête éventuellement un soutien par l'OTAN, crée un besoin, une opportunité, etc. Et donc, du coup, il y a un moment donné, il faut quand même qu'on se mette d'accord avec les autres, sachant que ça ne peut pas être qu'aux conditions françaises. Donc, il y a des choses qui vont nous déplaire, comme d'habitude, quand on se met d'accord avec nos voisins. Mais bon, il y a la nécessité d'un deal, il y a matière à le faire, et on a tous les éléments pour le faire. Il y a des fois, si on dit l'intelligence artificielle, bon, ben, on va dire, ah bah oui, mais il y a Mistral AI en France, mais on n'a pas forcément toutes les briques. Là, on a toutes les briques. Et donc, du coup, il est possible de le faire, il faut juste se mettre d'accord.
Et puis avec une urgence de s'affranchir, justement, de la protection américaine.
La capacité de l'Europe à mettre les briques ensemble, ils ne m'ont pas beaucoup impressionné, hein, sur beaucoup d'autres sujets.
Oui, enfin, après, devant la nécessité, quand même, les gens sont aussi
capables de faire des choses, mais oui. Est-ce qu'elles seront à la hauteur de ce qui est nécessaire? Bien. Moi, je suis très sceptique.
Je pense que la crise rend intelligent parfois. Quand même.
Ouf, pas sûr. Hein.
J'ai l'impression que les crises qu'on a traversées depuis quelques années.
2008, on a fait de l'austérité alors qu'il fallait faire de l'expansion. Ça rend pas intelligent.
Mais ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'une guerre qui menace l'ensemble des pays européens.
Bien sûr.
Avec un réel danger.
Ça fait des années qu'on entend dire que l'Europe se fait dans les crises. J'ai plus cette impression aujourd'hui quand je vois ce qui s'est passé rétrospectivement.
Les crises contribuent à défaire
l'Europe. Non, la pandémie, pour le coup, la crise du Covid, elle a permis de réunir l'Europe, oui.
Bon, là, en fait, c'est surtout la guerre entre Thierry Breton et Ursula von der Leyen.
Surtout.
C'est un peu la guerre dans la guerre.
L'Europe est en train de devenir un machin.
Bien, puisqu'on parle de machin, tenez, on vient en France, parce que vous vous souvenez, donc c'était en 2017, cette ordonnance qui avait instauré un barème fixant les montants des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'idée, c'était de mieux baliser le terrain, on disait, pour rassurer les employeurs. Et bien, deux économistes qui sont Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo le disent dans une tribune qui est parue hier dans Les Échos, 7 ans après... Le montant des indemnisations n'a pas vraiment baissé. Alors d'un côté, les juges des prud'hommes ont baissé le montant de l'indemnisation, mais en parallèle, ils ont augmenté d'autres indemnités, les heures non rémunérées, les congés non pris. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, peut-être que ces fameuses ordonnances n'ont pas changé grand-chose à l'histoire, finalement.
En effet, de toute façon, le bilan est très clair, ça n'a pas changé grand-chose, en termes de montant, en tout cas financé.
C'est vrai, de toutes les évaluations qui ont été faites des réformes par ordonnance, pour le moment, elles disent qu'il n'y a pas eu d'effet. Alors, sur celle-là en particulier, dans les années 2000, on avait 200 000 saisines des prud'hommes par an. En 2017, quand cette réforme a été faite, il y en avait environ 120 000. Cette baisse, elle était due à l'introduction de la rupture conventionnelle qui a diminué la conciliation.
Sur laquelle on devait revenir et finalement on n'est pas revenu dessus.
Je crois que ce n'est pas gagné, mais en tout cas, ce serait une erreur de revenir dessus. Après ça, depuis 2017, on a baissé d'environ 20%. Alors il y a peut-être des petites choses conjoncturelles là-dedans, mais les saisines globalement sont autour de 100 000 par an. Il faut savoir qu'on se réfère à plus de 2 millions de ruptures de contrats de CDI pour rupture licenciement, rupture conventionnelle, mais il y a aussi des prud'hommes qui sont saisis pour d'autres motifs.
Oui, bien sûr, hein.
Et donc, du coup, on est à 5% de saisine.
Oui.
Dans un certain nombre de cas, c'est l'employeur qui gagne, c'est pas que le salarié. Hein. Et l'étude qu'on a là, c'est une ressucée de la même étude qu'on a toujours un peu tout le temps, parce que c'est une petite obsession chez les deux auteurs. Donc, ils étaient plutôt à l'origine de la réforme en 2017, d'ailleurs. Et donc, ils sont obligés pour dire ça ne marche pas en ne regardant pas la baisse précédente. Et donc, du coup, la conflictualité qui reste est la conflictualité là aussi la plus dure.
Mais ce ne sont pas les juges qui font la résistance dans cette histoire, finalement.
Mais peut-être qu'il y en a, parce que un des problèmes des prud'hommes, c'est effectivement l'inégalité de traitement selon la juridiction dans laquelle on est et selon le collège devant lequel on est, selon qu'on est cadre ou pas. Et donc, du coup, ça, c'est un problème. Mais ce qui est démontré n'est pas démontré, à tel point que quand même, quand on ajoute les jours non payés et les jours de congé non pris et les heures non payées, ce n'est pas les prud'hommes qui posent problème. C'est juste que le travail doit être payé, basta quoi. Donc
ça n'a rien changé, Jean-Marc.
Non, ça pose pas de problème aux dépenses de l'État. Ça n'accroît pas les dépenses de l'État puisque c'est le sujet d'actualité. Mais que l'État les laisse tranquille. Il y a des partenaires sociaux qui fassent leur job, il y a des patrons qui fassent leur job, puis il y a les juridictions.
Et les tribunaux.
Voilà, c'est tout jusqu'à maintenant.
Voilà. Et puis,
mais la vraiment, question, là, c'est est-ce que ça a fluidifié le marché du travail? Bon, je pense que la réponse est oui. Est-ce que ça
alors, en tout cas, ça a facilité le dialogue, dialogue social entre employés et employeurs.
L'argument, c'était de dire que ça posera moins de problèmes aux patrons pour embaucher, puisqu'ils pourront licencier plus facilement et à moindre coût. C'était quand même l'argument en 2017. Mais je vous rappelle que c'était ça, quand même. Le storytelling était celui-là à l'époque.
C'était ça, mais enfin, imaginez qu'un patron, quand il embauche, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si jamais il met au prud'homme. Faut vraiment avoir une conception de l'entreprise. Bon, voilà. Alors, sur l'étude elle-même, moi, j'ai la même remarque, critique, si je peux dire. Ça manque de perspective historique et ça manque de comparaison. Ça veut dire que, effectivement, la grande question qui est derrière, c'est celle des ruptures conventionnelles. Et c'est elle qui a changé absolument la donne. Alors, si le résultat des courses, c'est que, au fond, ça revient au même, même en tripatouillant un peu, hein, c'est-à-dire en ajoutant des dépenses d'heures supplémentaires qui, de toute façon, étaient dues, etc. Bon, moi, j'ai qu'un seul regret, c'est qu'on ait introduit une justice d'exception. C'est-à-dire qu'il y a un cas dans lequel on impose au juge qu'il y a des limites dans lesquelles il ne peut pas aller. C'est très dommage, surtout pour un résultat nul.
Non, mais il arrive à échapper à ses limites quand même, parce que dans des circonstances de harcèlement et de choses comme ça, on n'est pas dans le barème.
Donc oui, mais la grande discussion, c'était ça quand même. La grande discussion, c'était fait-on de cette justice du travail, qui n'est qu'une partie hein, de la justice du travail, une exception à la règle générale des principes de justice. Moi, j'ai personnellement été très choqué par ça, je ne le cache pas.
Pourquoi vous considérez que ça a fluidifié du coup le marché du travail, Jean-Marc? Puisque par définition, ça n'a pas vraiment changé les choses.
Ça a pas dans l'entreprise, ça a quand même changé les choses, parce qu'il y a un dialogue qui s'est opéré et qui fait qu'on trouve des ajustements quand même.
Alors, moi, je pense que les deux choses qui étaient très fortes et qui ont baissé la conflictualité, c'est la rupture conventionnelle.
Oui,
et
bien sûr.
C'était d'ailleurs une proposition de Pierre Cahuc et Francis Cramas, hein, donc du coup, pas de problème de ce côté-là. Et l'autre chose, c'est la conciliation. Et donc, du coup, le premier stade des prud'hommes, c'est la conciliation. Et donc, la médiation. Ça force quand même à abaisser la conflictualité. Et donc, que ce qui reste soit les cas les plus difficiles, et donc éventuellement où les préjudices sont les plus importants et vont sur d'autres sujets, c'est pas non plus particulièrement étonnant.
Bon. Non, et puis la baisse de la conflictualité, ça fait aussi qu'il y a moins de fréquentation, par conséquent, des tribunaux. Donc, c'est plutôt une bonne
chose. Bien sûr.
Je pense quand même que ça n'a profité principalement, sauf erreur, au personnel cadre, cadre moyen, cadre supérieur. Le système de la rupture conventionnelle.
Benjamin, non
on n'a jamais utilisé le système de rupture conventionnelle.
C'est les jeunes. Les ruptures conventionnelles, plus de la moitié des ruptures sont en dessous de 35 ans, je crois. C'est un truc de jeunes. C'est pas du tout un truc de vieux.
Les cas,
c'est ça le nouveau marché du travail.
Il y a des cadres moyens et supérieurs qui ne sont pas vus.
Non, mais j'ai la même évaluation. Je pense que c'est utile. Si on ne fait pas entrer la question de la rupture conventionnelle dans cette évaluation, on passe à côté.
Ouais. Bien, il nous reste 3 minutes et pas des moindres, puisque c'est l'heure de l'extra time, comme tous les jours sur BFM Business. Vos humeurs, coup de cœur, coup de gueule sur 30 secondes. C'est la règle impitoyable de cette émission. Bah tiens, Benjamin, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes.
Oui, ça va aller très vite. Et ben moi, c'est plutôt un coup de gueule, en l'occurrence. C'est la manière dont la France bloque le fait qu'on introduise une régulation sur les travailleurs des plateformes. Il y a, semble-t-il, un consensus en Europe, depuis un moment, pour introduire une régulation, mais c'est simplement une régulation, hein, c'est-à-dire que sous un certain nombre de conditions qui sont très bien répertoriées, il y en a 5 en l'occurrence, on permettrait à des travailleurs qui sont dans une relation complètement asymétrique de bénéficier du statut de salarié. La France bloque. Je trouve ça vraiment triste.
Eh bien voilà, c'était votre cri du cœur, votre coup de gueule. Jean-Marc Silvestre, c'est à vous.
Je reviens à l'actualité. Mon coup de gueule, c'est pour Frédéric Bastiat. Oui. Il est un économiste dont on n'enseigne plus du tout les idées dans les universités. On ne les a jamais d'ailleurs enseignées. Quand j'étais prof à la fac, on ne m'en jamais parlé. Et il est enseigné à Harvard. Il a sa statue à Harvard. Il a une petite statue dans sa ville natale qui est à quelques kilomètres de Bayonne. Là d'ailleurs où Bruno Le Maire va passer parfois ses vacances puisqu'il a une partie de sa famille là-bas, mais Frédéric Bastiat, c'est le chef de file de la pensée libérale, et je crois qu'il serait bon de rendre ses écrits obligatoires. Je fais une citation que j'ai trouvée et qui est totalement d'actualité. Tout le monde veut vivre aux dépens de l'État. en oubliant que l'État vit aux dépens de tout le monde.
Voilà, pas mal.
C'est joliment dit.
Rendons-lui hommage, comme on dit. Bruno Coquet, pour terminer, 30 secondes, Bruno, allez-y.
Moi, je vais faire ma publicité. J'ai fait une petite tribune dans l'opinion là, aujourd'hui sur le plan Un jeune, une solution, qui est tribune intitulée Un jeune, zéro solution. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, on a 500 000 apprentis en plus par rapport à 2019, mais 40 000 chômeurs de moins, de jeunes de moins de 25 ans au chômage. Donc, du coup, on voit bien que le transfert ne s'est pas fait. Et le nombre de NITS, ceux qui étaient prioritairement visés par ce plan, c'est-à-dire des jeunes ni en emploi ni en formation, lui, il est plus haut que fin 2019. Et tout ça nous aura coûté 100 milliards.
Ah bah c'est cher pour un résultat nul, oui.
Peut-être le savoir, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, peut-être qu'ils cherchent un petit peu.
Je crois qu'ils peuvent pas l'ignorer.
Oui, ils peuvent pas l'ignorer, évidemment. Voilà pour vos coups de gueule, vos coups de cœur, voilà pour l'Extra Time. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir, avec plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures. Benjamin Coria, Jean-Marc Sylvestre et Bruno Coquet. Merci infiniment. 19h55, c'est fini.
L'émission est terminée pour ce soir, en effet, mais le débat, bien sûr, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.fr. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir pour commenter l'actu économique ensemble.
On sera là à 18h, évidemment, même heure, même endroit. Dans un instant, François Sorel, Tekken Co. Très bonne soirée sur BFM Business.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.